Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On va continuer notre étude sur la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, on va reprendre le verset 23. J'ai des choses à vous dire à ce sujet. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ces paroles que je vais dire aujourd'hui et que mes frères et sœurs puissent être édifiés. Merci Jésus, amen. Alors Hébreux 10, 23, 27, voilà ce qui est dit. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Alors, je vous ai déjà enseigné le mot « proclamer ». Le mot « proclamer » signifie donc « déclarer hautement un sentiment, une croyance ». On peut proclamer envers un maître sa plus vive admiration. C'est ce que dit le dictionnaire, hein, au sujet du mot proclamer. Donc, dans les Bibles plus anciennes, ils écrivaient le mot professer. Mais bon, comme le vocabulaire change parce que les gens changent, alors maintenant, les nouveaux théologiens ont mis « proclamer » ou « déclarer ». On déclare notre foi, on déclare notre espérance, on en parle. Au XXIe siècle, les gens ont oublié ce que signifie le mot « professer », hein, c'était dans les anciennes Bibles. C'est pourquoi les théologiens ont choisi un synonyme « proclamer ». Alors... Certains écrivent « confesser », la confession de la foi, la confession, ça veut dire la proclamation de la foi ou de notre espérance. Mais le mot « confesser », maintenant, il a pris une connotation catholique dans la pensée collective. On pense tout de suite, quand on entend le mot « confesser », on pense « confession des péchés ». Or, confesser signifie déclarer spontanément, reconnaître pour vrai. Voilà ce que signifie le mot confesser. Là, la valeur des mots change au cours des âges, et voilà pourquoi il faut retraduire régulièrement la Bible afin de pouvoir la comprendre. Parce que si on lit des Bibles du XIVe siècle, on n'y comprend rien du tout. Non pas qu'elles disent le contraire de ce que les Bibles modernes disent, mais c'est que le vocabulaire a changé. Je ne veux pas dire évolué, parce qu'on ne peut pas parler d'évolution. Hein. Donc Paul nous exhorte à proclamer notre espérance devant qui ? Eh bien, devant ceux qui n'ont pas cette espérance, évidemment. C'est-à-dire les incroyants et aussi les croyants qui sont mal instruits. Qui croient dans d'autres vertus que celles de Jésus pour leur salut, hein, qui rajoutent, qui pensent qu'il faut faire ceci et faire cela pour être sauvés, que le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas suffisant pour leur salut. Ils croient en Jésus, mais ils ajoutent à cette croyance la tradition de leur religion, les dogmes, le magistère. Le magistère n'est rien d'autre que la dignité de grand maître d'un ordre. Hein, une autorité absolue dans l'Église catholique. Or, il n'y a d'autorité absolue que celle de Jésus-Christ, et Jésus-Christ n'a pas de vicaire. Je parle toujours, j'aime les mots, hein, le mot d'après le dictionnaire. Moi, il faut toujours s'en référer au dictionnaire pour savoir ce que signifie un mot. Le dictionnaire nous dit que le vicaire du Christ, donc qui est le pape, qui est le représentant du Christ dans l'Église, le suppléant. Or, le mot suppléant, dans la langue française, qui est notre langue, c'est une personne qui remplace quelqu'un dans ses fonctions. Donc, ici, on va par là, le pape est le remplaçant de Jésus-Christ. Personne ne remplace Jésus-Christ dans la véritable Église de Jésus-Christ. Ni un pape, ni un président, ni un pasteur, ni un apôtre, ni un prêtre, personne, ni un évêque, personne, personne. Jésus-Christ est unique, il a reçu la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, et il n'y a personne qui le remplace. Il a des ministres, certes, mais ce sont des ministres de la parole, il y a 5 ministères, mais il n'y a pas, ces ministères ne sont pas des remplaçants. Alors, je reviens à ce que je disais, nous proclamons notre espérance devant les incroyants et les hérétiques qui sont soi-disant chrétiens, mais ils croient qu'ils sont chrétiens, hein. Mais ils sont dans l'erreur. Voilà. Donc il faut proclamer notre espérance. Notre espérance est en Jésus-Christ seul, lui qui est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Je vous ai enseigné ça. Ça fait bientôt une année qu'on étudie la lettre aux Hébreux et c'est complet, c'est une perfection cette lettre au sujet de l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a faite et qu'il continue à faire, cette œuvre de rédemption, d'intercession pour nous. Lui seul a le pouvoir de nous faire entrer dans le sanctuaire céleste, en présence de Dieu. Et nous y entrons par la foi, par la prière. Mais c'est en espérance, parce que la réalité de notre entrée dans le lieu très saint est une chose à venir. Quand Jésus apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça, c'est, on l'a vu, on a étudié ça, c'est dans Hébreux 9, 28. Donc, quand il apparaîtra une seconde fois, c'est ce que nous attendons, eh bien, là, ça n'aura plus de rapport avec le péché, puisqu'il a ôté le péché du cœur de ceux qui croient en lui, et nous attendons Jésus-Christ pour notre salut complet manifesté, et nous serons manifestés tels que nous sommes réellement. Donc nous confessons, nous proclamons, nous attendons Jésus-Christ. C'est cela la vraie attitude du vrai disciple de Jésus. Alors combien l'oublient, combien ont besoin de s'appliquer à retenir la simple exhortation de l'apôtre. Nous avons à retenir fermement cette espérance, sans chanceler. L'homme naturel, il est porté à se décourager si l'attente se prolonge, alors il raisonne et se dit « Mon maître tarde à venir ». Ça, c'est Jésus qui nous a prédit que ça allait arriver, que des gens allaient se décourager, dire « Oh, mon maître tarde à venir ». Je vais vous lire ça dans Luc 12, 42. Voilà ce qu'il dit. Si un serviteur se dit en lui-même, donc quelqu'un qui fait profession de servir Christ, s'il se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas, où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des infidèles. C'est quoi le sort des infidèles? Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Alors, qu'est-ce que nous voyons là? Ben, c'est clair, hein, je vous le dis, combien dans l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui, il y a des entre guillemets serviteurs de Dieu qui abusent de leur pouvoir et font du mal aux fidèles. Ils les trompent en leur racontant des bobards. Et certains, par le passé, ont allumé des bûchers. Heureusement, maintenant, ils ne peuvent plus le faire parce qu'on leur a sévèrement retiré ce pouvoir. Ils ont volé des gens en leur proposant des indulgences. Vous savez que ça existe toujours, les indulgences. Une indulgence, c'est vous payez et puis vous avez le droit de pécher. Hein? Ouais. Ça, c'est complètement hérétique, anti-biblique, et c'est le vicaire du Christ, c'est-à-dire son suppléant, hein, qui permet ça, qui a institué ça. Si vous ne voyez pas que c'est une hérésie monstrueuse et une offense à Jésus, c'est que vous êtes irrécupérable. Si vous pensez que ce que je vous dis est faux, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cœur, dans votre nature. Est-ce que vraiment vous êtes un enfant de Dieu pour croire des choses pareilles? Les indulgences, ils ont violé des femmes. Il y a énormément de femmes qui sont abusées par des prêtres. Et parce que cette église interdit le mariage, ce que la Bible dit aussi, ils en viendront à interdire le mariage. Et alors vous avez énormément le petit village où nous vivions, le prêtre âgé, un jour il a disparu avec sa bonne. C'était connu, tout le monde savait que c'était sa femme, quoi. Hein, voilà. Et puis un jour il en a eu marre de cette hypocrisie, il s'est taillé avec sa bonne femme. Voilà, mais il y a des femmes qui sont moins heureuses que ça, c'est-à-dire ils leur font des bébés et puis ils les laissent tomber. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus, il faut vous renseigner. Et puis, s'ils ne s'arrêtaient pas là, hein, en plus, certains violent des enfants, protègent ceux qui violent les enfants, ils ont conduit des hommes à la Sainte Guerre, n'est-ce pas, faut pas oublier non plus, hein. Croyez-vous qu'ils resteront impunis? Ben non. Jésus dit, ils se mettront à battre les gens, etc. Eh oui, ben c'est ce qu'ils... Ils ne sont pas gênés. Hein. Mais sachant ces choses, connaissant l'histoire, comment est-ce que vous pouvez rester sous l'autorité de ces gens qui se prétendent serviteurs de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes devenu aveugle? Je vous le dis en vérité, qui se ressemble, s'assemble. Si vous les aimez, c'est que vous êtes comme eux. Alors voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut vous détourner de tout ça, comme la Bible le dit, afin de ne pas participer à la punition qu'elle va recevoir. L'homme a vraiment vite fait d'oublier l'histoire, parce qu'il s'occupe de sa petite histoire personnelle, de ses petits intérêts, de ses petits machins. Alors, il regarde vers le monde, il oublie le but céleste, il oublie le but... Et il s'occupe de fables. Je regardais l'autre jour une vidéo, c'est incroyable, des choses incroyables, les stigmates, hein, il y a un prêtre là qui collectionne les petits bouts de ficelle qui ont appartenu à Padre Pio, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi, c'est une idolâtrie, enfin, le culte de la personnalité, mais comment est-ce qu'on peut... Quand on connaît Jésus, tomber dans des trucs pareils, plutôt que de rester dans la simplicité de la sainte espérance en Christ, notre souverain sacrificateur. On va lire Hébreux 10, 24-25. Écoutez bien, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Alors, il y avait des gens qui abandonnaient leur assemblée. Maintenant, l'apôtre nous exhorte au sujet de la communion fraternelle. Et il nous dit de veiller les uns sur les autres. Mais comment le faire alors que les chrétiens ne se connaissent pas? Ils sont assis en rond d'oignon dans une église, ils tapent des mains, ils chantent, il y en a qui se roulent par terre pour la plus grande gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ils ne se connaissent pas. Ils ont, comme Paul le dit, abandonné leur assemblée. Alors voyons ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie, ils ont abandonné leur assemblée? Ce texte, il y en a beaucoup qui s'en servent pour dire, « Ouais, vous ne devez pas aller dans une autre église que la mienne. » Non, ça signifie, ils ont arrêté d'être ensemble. Le mot « assemblée » ici, ce n'est pas le mot « église ». Il faut bien savoir ça. C'est le mot « episonagogue ». Ce mot se trouve seulement deux fois dans le Nouveau Testament. La première fois, c'est dans la lettre aux Thessaloniciens, la deuxième, chapitre 2, verset 1. en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole, ou une lettre qui semblerait venir de nous. Vous voyez, déjà à l'époque, ils avaient des espèces de Claudinerski qui disaient que le Seigneur allait revenir ou qu'il était déjà revenu. Il y avait déjà des bizarres à l'époque. Hein. C'est pas nouveau, il y a toujours eu ces espèces d'esprits tordus. Donc ce mot, dans les Thessaloniciens, il est question donc de notre rassemblement, c'est-à-dire de notre union avec Christ. Ce mot ne parle pas d'un lieu, mais d'un événement, un rassemblement avec quelqu'un, quelque chose qui est un événement, se rassembler avec quelqu'un. En fait, le contexte nous révèle cela quand on lit la lettre aux Hébreux. Il faut veiller les uns sur les autres, nous encourager à aimer Dieu, notre prochain, à pratiquer des bonnes œuvres, des bonnes œuvres qui ont été préparées à l'avance par le Seigneur afin que nous les fassions. Et nous ne devons pas abandonner donc Jésus, être constant avec lui, et si nous abandonnons le fait d'être ensemble, comme c'était le cas dans l'Église primitive, eh bien nous ne pouvons pas vivre les choses décrites au sujet d'une communion fraternelle vivante. L'apôtre Paul, il écrivait à l'époque, les églises, ce n'étaient pas des lieux de rassemblement où on allait une fois le dimanche, une fois le jeudi soir, une réunion de prière. Ils vivaient en communauté, même dans les nations, je vous ai déjà démontré tout ça. Vous pouvez aller sur Révélation Bible dans le dictionnaire et vous regardez, vous cliquez dans le mot dictionnaire et vous allez chercher le mot communauté, église, et vous allez trouver tout ça. Ils vivaient, même dans les nations, il n'y a pas qu'à Jérusalem où ils vivaient en communauté. Ils avaient vraiment une communion fraternelle vivante. Alors, il n'y aura pas d'autre Jésus, il n'y aura pas d'autre sacrifice qui viendra sauver les personnes qui abandonnent le fait d'être ensemble. On peut dire qu'il n'y a pas de déconnexion, ni avec Jésus, ni avec l'Église, qui est décrite dans Actes 2, 4. Ça, c'est ce que Paul dit à cette époque, mais maintenant, c'est quelque chose d'accompli. Ils ont tous laissé tomber, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, et puis maintenant, ben, c'est plus que des espèces de synagogues, des assemblées où ils se retrouvent de temps en temps, et puis ils chantent, ils tapent des mains, ils écoutent le bon pasteur, et puis ils s'en vont, quoi. Mais c'est pas l'Église, ça. Une déconnexion avec le rassemblement des fidèles, c'est une chose sérieuse. Se contenter d'un culte le dimanche ou d'une messe ou d'écouter des prédications sur Internet, ce n'est pas faire preuve de fidélité à Jésus et à son Église communautaire selon Acte 2 et Acte 4. Il ne s'agit pas non plus de laisser la religion prendre le dessus sur la communion fraternelle en Jésus-Christ. Des gens, ils ont une religion, mais ils n'ont aucune communion fraternelle. C'est faux. C'est faux aussi. Certains des Hébreux à qui Paul écrivait ne voulaient plus vivre en communauté et ils se contentaient de retourner au temple. Alors ce texte ne signifie pas que la condamnation est sur ceux qui abandonnent leur religion, leur culte ou leur messe. Non, pas du tout. Mais il est bien évident que la Bible nous encourage à la communion fraternelle. Ce texte nous dit que nous devons rester attachés à Jésus et ne pas rajouter quoi que ce soit au sacrifice parfait du Sauveur et la communion fraternelle telle que décrite dans Actes 2, 4 ne doit pas être abandonnée au profit d'une religion. C'est ça que ce texte dit. C'est pour ça que j'ai voulu revenir dessus. On va lire, parce que je vous parle toujours d'Actes 2, on va lire Actes 2, 41-45. Voilà ce qui est dit là, Actes 2, 41-45. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, donc les premiers chrétiens, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et des prières, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit en tout, entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, etc. Vous voyez, ça c'était l'Église telle que Jésus la voulait, telle qu'elle a été créée, telle qu'elle a été instituée par les apôtres. C'est comme ça que c'était. Et quand on abandonne ça, ben, c'est pas une bonne chose. Lisons Acte 4, 32 maintenant. Acte 4, 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres ont des témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux, car tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres, et en faisaient des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Voilà, où c'est ça? C'est pourtant dans la Bible, mais où est-ce que c'est vécu? Ben nous, on le vit depuis 1977, et depuis là, je vous exhorte régulièrement à vivre ces choses. Alors, ça vous appartient, hein, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Hein, j'aime Jésus, alléluia, amen, merci frère, c'est bien, amen, 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 amen. Mais les actes maintenant, les actes. C'est ça qu'il ne fallait pas abandonner. Ils l'ont abandonné. Aujourd'hui, l'Église ne vit plus. Enfin, l'Église, ces clubs ne vivent plus ça. C'est fini. Et nous nous appliquons à vivre cela afin d'obéir au Seigneur Jésus-Christ et d'entrer dans ce rétablissement de toutes choses qui est annoncé dans Actes chapitre 3. Jésus ne reviendra que au temps du rétablissement de toutes choses. Mais si vous n'entrez pas dans ce rétablissement de toutes choses, ne vous étonnez pas de ce qui va arriver. Vous serez laissé de côté. Vous ne partirez pas dans l'enlèvement. C'est un peu triste, hein, de le dire, mais je suis bien obligé de vous le dire. Je suis mandaté pour prêcher l'Évangile. Je ne suis pas mandaté pour vous raconter des bobards et vous parler de fables ou de je ne sais quoi. Hein? Alors voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, réfléchissez, mettez-vous dans la prière, cherchez la face de Dieu, et puis, voilà, puis posez-moi des questions, écrivez-moi, je vous répondrai. Que Dieu vous bénisse, merci Seigneur de bénir les paroles que j'ai dites aujourd'hui, et je te prie que ça ne décourage pas mes frères et sœurs, mais que ça les aide à prendre des décisions au sujet de leur avenir et au sujet de leur consécration. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, à bientôt.